Nous arrivons à la fin de notre série sur le sermon sur la montagne. Cette prédication de Jésus qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5 à 7. Et moi, j'avais le privilège de commencer cette série et de clôturer la série. Normalement, c'est Paul Kuhn qui était prévu pour prêcher aujourd'hui, mais il est occupé avec la chorale, donc c'est moi. Donc c'est moi qui a commencé et c'est moi qui va clôturer la série, le commencement et la fin. Sauf que une prédication ne se termine pas lorsque le prédicateur se tait, mais lorsque les auditeurs mettent en pratique l'enseignement reçu. Surtout quand le prédicateur, comme dans le sermon sur la montagne, était Jésus lui-même. Notez comment, la façon que Jésus a terminé sa prédication. Il a dit, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé, un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. Une prédication se termine quand nous mettons en pratique ce que nous avons entendu. Et dans la première prédication de la série, j'ai dit qu'il y avait deux questions à poser sur une prédication. Qui est le prédicateur et quel est son sujet? Et je reviens à ces deux questions ce matin. Quel est le sujet du sermon sur la montagne? Je dirais tout simplement, c'est comment vivre dans un monde qui est en décalage avec ce que Dieu veut. Comment vivre dans un monde qui est en décalage avec ce que Dieu veut. Et je vous donne juste un petit rappel de ce que nous avons vu dans le sermon sur la montagne. Jésus commence avec une invitation à une vie heureuse, une invitation à une vie bénie. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume de Dieu leur appartient. Et puis, il y a une invitation à une vie qui a un sens, une vie qui compte. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et puis, Jésus donne des illustrations de comment mener une vie authentique devant les hommes. Il dit, vous avez appris, mais moi je vous dis, on trouve que ce que Jésus dit dans ses illustrations révèle le vrai sens de ce que Dieu veut pour nous dans notre vie. Et puis, il passe à comment mener une vie authentique, pas seulement devant les hommes, mais devant Dieu lui-même. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes ce que vous faites pour Dieu. Une vie authentique, une vie sincère devant Dieu. Et puis, il nous donne la prière modèle, notre Père qui est aux cieux. Et combien de gens ont eu une vie de prière formée par cette prière que Jésus nous a donnée. Puis, il nous invite à une vie dépendante de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Et puis il nous donne la règle d'or. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Et puis il nous donne une mise en garde contre les faux enseignants, ceux qui donnent l'apparence d'agneaux, mais qui en réalité ce sont des loups féroces. Et pour terminer, il nous met devant un choix. La porte étroite ou la porte large. Le chemin qui mène à la vie ou le chemin qui mène à la perdition. Construire sur un roc ou sur du sable. Obéir à sa parole ou rien faire. Quelle prédication! Quelle prédication remarquable! Deuxième question, qui est le prédicateur? Ben, c'est Jésus, bien sûr. Mais écoutez la réaction de ses auditeurs. Et là, c'est notre texte d'aujourd'hui. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 28 à 29. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avait pas leur interprète de la loi. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avait pas leur interprète de la loi. Et ça, c'est le sujet de ma prédication ce matin. L'autorité de Jésus-Christ. Et pour explorer ça, je pose trois questions. Comment cette autorité s'est-elle manifestée dans le sermon sur la montagne? D'où venait cette autorité? Et comment Jésus a-t-il utilisé cette autorité? Première question, comment Jésus a-t-il manifesté son autorité dans le sermon sur la montagne? Premièrement, je dirais par son style. John Stott a écrit dans son commentaire sur le sermon sur la montagne, il dit le suivant, « Dans son discours clair et précis, Jésus n'hésite ni se justifie. Avec une assurance tranquille et sans prétention, il présente la loi du royaume. » Je trouve ça, c'est une description remarquable en deux phrases. « Avec une assurance tranquille et sans prétention, Jésus présente la loi du royaume. » Et quand vous lisez le sermon sur la montagne, vous avez ça. C'est l'autorité. Mais dit sans prétention. La deuxième chose, comment l'autorité s'est manifestée dans le sermon sur la montagne, c'est par la vie de Jésus lui-même. J'ai constaté que dans le sermon sur la montagne, Jésus parle beaucoup de l'hypocrisie. Mais dans sa vie, il n'y en avait pas. Personne n'a pas pu dire à Jésus, « Ah, tu dis une chose, mais tu fais le contraire. » Intéressant ce jour d'une élection présidentielle, de penser à ça. « Ah, tu dis une chose, mais tu fais d'autres choses. » Mais personne n'a pu dire ça à Jésus. Il y avait une authenticité, un amour et une sagesse en lui qui donnait à sa parole une autorité. Et vous connaissez ça avec vos relations humaines, que si on a en face quelqu'un qui a une authenticité, un amour et une sagesse dans sa vie, vous savez qu'il a l'autorité dans ce qu'il dit, parce que c'est basé sur sa vie. Et comment cette autorité a été manifestée, la troisième chose, c'est pas par ses paroles, par les paroles de Jésus. Dans le sermon, Jésus se présente comme législateur. Un commentateur a dit qu'il se présentait pas comme un commentateur, mais comme le législateur qui a le droit d'ordonner, d'interdire, d'abroger et de promettre sur la foi de sa seule parole. À plusieurs reprises, Jésus utilise le formule « Vous avez appris que, il a été dit, eh bien moi je vous dis. » C'est le législateur qui parle. Ce n'est pas le notaire, ce n'est pas l'avocat, c'est le législateur. Dans le sermon, il se présente aussi comme juge. Jésus dit vers la fin du sermon « Au jour du jugement, hein, c'est le jugement qu'on sera face à ça, tout le monde, à la fin de notre vie, au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur ». Et puis il continue, « Je le déclarai, alors je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » C'est Jésus le juge, législateur et juge. Et puis la troisième chose, c'est que ce que Jésus dit est universel. Ce qu'il dit n'est pas réservé aux Juifs de son temps, à ses auditeurs à l'époque, mais à nous aussi, 20 siècles plus tard, ici en France. Quelqu'un a dit, il parle en connaissance de cause. Il sait qui est le plus grand dans le royaume de Dieu, qui est béni aux yeux de Dieu, quel est le chemin de la vie et celui de la destruction. et qui peut être appelé enfant de Dieu. Ça, c'est l'autorité de Jésus. Ma deuxième question était, d'où vient cette autorité? Premièrement, cette autorité vient de l'identité de Jésus lui-même. À un certain moment, dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit, « Je suis venu. » Je suis venu. Trois mots dans lesquels il a un enseignement extraordinaire. Quoi. Parce que ça parle de l'incarnation de Jésus. Je suis venu pour accomplir ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. La grande incarnation de Jésus. Je suis venu d'où? Je suis venu du Père. Extraordinaire ça. James Irwin, un astronaute, le huitième homme qui a marché sur la Lune après Tintin, a dit que la chose la plus importante n'est pas à ce qu'un homme a marché sur la Lune, mais ce qu'en Jésus-Christ, Dieu a marché sur la Terre. Je suis venu. Jésus est venu dans notre monde. Donc, l'autorité venait de son identité, mais l'autorité venait aussi de sa mission. Jésus, le Fils de Dieu. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Sa mission, la mission de Jésus. C'est important d'avoir un cahier de charge quand on a une responsabilité. Quand j'étais pasteur à Veneux, j'avais un cahier de charge qui m'expliquait ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire. Les décisions que je pouvais prendre moi-même, les décisions qui étaient soumises au conseil, etc. C'était clair ce que je pouvais faire. Jésus aussi avait un cahier de charge. Le cahier de charge de Jésus, je peux exprimer en deux phrases, qu'il a dit lui-même, « Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et le Fils de l'homme est venu servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et c'est ce cahier de charge qu'il a donné à Jésus, cette autorité. Parce qu'il avait ça de la main de son Père céleste. Chercher et sauver ce qui est perdu. Donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et puis, le troisième point, c'est là où on trouve les applications de tout ce qu'on a dit. C'est comment Jésus a-t-il utilisé son autorité? Moi, je trouve que c'est très intéressant. La façon que Matthieu, il a organisé son évangile. Parce que le sermon sur la montagne, chapitre 5, 6, 7, est suivi par chapitre 8, bien sûr. Et dans chapitre 8, c'est comme si Matthieu répond à cette question. Comment Jésus a-t-il utilisé son autorité? Parce qu'en Matthieu chapitre 8, il y a cinq histoires qui nous montrent comment Jésus a utilisé son autorité. Ça commence par le fait que Jésus a guéri un lépreux. Le lépreux était un signe d'impureté à l'époque. Le lépreux a dit à Jésus, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et la réponse de Jésus est formidable. « Oui, je le veux, sois pur. » Ça, c'est l'autorité. « Oui, je le veux, sois pur. » Et quel encouragement pour nous à venir à Jésus tel que nous sommes. Combien de fois on pense qu'on a besoin d'être à ce niveau-là pour venir à Jésus? Non, pour être comme le lépreux. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Je le veux, sois pur. Un encouragement à venir à Jésus tel que nous sommes. Deuxième histoire, Matthieu chapitre 8. Il a guéri à distance la fille d'un officier romain qui avait reconnu que Jésus avait l'autorité de le faire. Le soldat a dit à Jésus, « Vous n'avez pas besoin de venir à ma maison. Moi, je suis un homme qui connaît l'autorité. Je suis sous l'autorité des autres officiers. Et j'ai une centaine d'hommes qui m'obéissent quand je dis quelque chose. Je sais ce que c'est l'autorité. Seigneur, toi, tu as l'autorité de guérir ma fille, même sans venir dans ma maison. Et Jésus l'a fait. Quel encouragement là pour nous dans la prière, que Jésus a l'autorité. Il peut exaucer nos prières comme il a exaucé la prière de cet officier romain. Troisième histoire en Matthieu 8. Jésus a établi les conditions pour ceux qui voulaient le suivre. Il y a eu deux anges qui sont venus et dit, oui, Seigneur, on va te suivre. Et Jésus a donné certaines conditions à eux. Un disciple, un chrétien, c'est quelqu'un qui est sous l'autorité de Jésus. C'est sous l'autorité de Jésus. Et ça, c'est un encouragement pour nous à l'obéissance dans la vie. Et pour illustrer ça, je pensais à un homme qui s'appelle Norman Grubb. Il habitait, c'est un Anglais, mais qui habitait à la fin de sa vie aux États-Unis. Et il avait écrit plusieurs livres, c'était missionnaire, plusieurs livres sur la vie de C.T. Studd, etc. Mais il avait une prière qu'il priait chaque matin. C'était renommé, reconnu par ça. Et la prière qu'il a priée ce matin, c'était le suivant. Bonjour Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui? Et ça, c'est l'obéissance, n'est-ce pas? Bonjour Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble? Souvent, on pense à l'obéissance, Dieu, etc. Mais non. Bonjour Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble? L'obéissance. Quatrième histoire en Matthieu 8, c'est Jésus a calmé la tempête sur le lac. Et les disciples lui ont dit après, même les vents et les lacs lui obéissent. Même les vents et le lac lui obéissent. Ça, c'est l'autorité, n'est-ce pas? De parler au vent. Ce n'est pas la tempête qu'on a eue ici jeudi ou vendredi. J'aurais bien dit arrêtez là, mais moi, je n'ai pas l'autorité. Mais Jésus, il a arrêté une tempête. Et quel encouragement pour nous à la persévérance. Quand les choses sont bouleversées autour de nous, on peut persévérer parce qu'on sait que Jésus, il a l'autorité. Et Jésus peut restaurer la calme en son temps. Et la cinquième histoire dans le Matthieu 8, c'est que Jésus a chassé les démons. Et les démons ont crié, « Que veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps ?» Ces deux hommes qui terrorisaient une région parce qu'ils étaient sous l'emprise du diable, des démons. Mais Jésus a chassé les démons par une parole. Quelle autorité et quel encouragement pour nous. Être courageux et de ne pas avoir peur parce que Jésus est plus fort que tout ce qui peut nous menacer. Mais je termine cette prédication par trois versets qui parlent spécifiquement de comment Jésus a utilisé son pouvoir. Trois versets qui utilisent le terme autorité ou pouvoir dans le texte. Premièrement, Jésus a utilisé son autorité pour pardonner nos péchés. Matthieu chapitre 9, les premiers versets parlent des hommes qui ont porté un paralytique à Jésus et pour que Jésus puisse le guérir. Et la première chose que Jésus a dit à cet homme, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et les pharisiens qui étaient là disaient, « Écoute, non, 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 qui est cet homme? C'est que Dieu qui peut pardonner les péchés. » Et Jésus leur a dit, « Qu'est-ce qui est plus difficile, pardonner les péchés ou de guérir l'homme, mais pour vous montrer que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, il a dit à l'homme, « Lève-toi. » Et l'homme s'est levé. Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés. Et l'application, je sais qu'il y a plusieurs parmi nous qui sont paralysés d'un sens de culpabilité ou un péché récurrent qui ne peut pas sortir du pouvoir de ce péché. Mes amis, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a l'autorité de nous pardonner et de nous libérer. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Jésus a le pouvoir de faire ça. Deuxième verset, qui est peut-être le verset le plus étonnant dans cette prédication, c'est que Jésus a utilisé son autorité en donnant sa vie pour nous. Et ça, c'est bien d'utiliser ce verset le jour des rameaux où Jésus est entré en Jérusalem préparé pour sa mort sur la croix. Jésus a dit en Jean chapitre 10, verset 18, « Personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité de la donner et de la prendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Quand on pense à l'autorité, on pense à quelqu'un qui domine, quelqu'un qui donne l'ordre, etc. Mais Jésus, il a utilisé son autorité pour donner sa vie pour nous. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Mes amis, Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous sauver, pour nous donner une vie nouvelle, pour nous donner une relation avec Dieu, pour nous donner l'autorité de devenir enfants de Dieu. Pensez à tout ce que nous avons vu et entendu de Jésus ce matin. Et si vous ne l'avez jamais fait, c'est le moment de dire à Jésus qui est devant vous, Jésus, tu es mon sauveur et mon Seigneur. Et troisième chose, c'est qu'est-ce qui me donne le droit de vous dire tout cela? Qu'est-ce qui me donne le droit de vous dire tout cela? C'est Jésus lui-même. Parce que l'évangile de Matthieu termine avec cette parole de Jésus. Tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations les disciples. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, dernière question. Comment allez-vous répondre à l'autorité de Jésus? À vous de terminer cette prédication. Amen.